Bien, bonjour à tous. Et voilà à peu près de quoi je voudrais parler cette année, en commençant par mentionner quelques résultats récents des observations qui ont fait des progrès spectaculaires depuis quelques années. Et nous aurons un séminaire de Anne-Marie Lagrange, qui ne doit pas être encore arrivé, sur l'imagerie des exoplanètes, bilan et perspective. Alors, comme toujours, je vais parler de ce qui est d'essayer de mieux voir les étoiles, leurs planètes, voir s'il y a de la vie sur ces planètes, et puis au-delà, les galaxies, et puis l'univers lointain qui va peut-être bientôt devenir accessible aux observations à haute résolution, avec les interféromètres, les hypertélescopes. Y a un livre qui vient de sortir où j'ai contribué un chapitre là sur toutes sortes de spéculations concernant la cosmologie et autre chose, en particulier la question de savoir s'il y a un univers ou plusieurs univers. Une question qui préoccupait déjà Platon il y a 2300 ans. Et la question n'a pas beaucoup avancé depuis. Les observations actuelles ne permettent pas d'en décider. Et je rappelle que pour beaucoup de théoriciens, c'est surtout de l'observation que dépend l'avancée du domaine en astrophysique. Et lorsqu'il n'y a pas assez d'observations, on a tendance à s'égarer dans toutes sortes de spéculations invérifiables. Et c'est seulement les observations qui permettent de départager les théories et de progresser, et même de suggérer de nouvelles théories. Alors, depuis quelques années, on arrive dans une nouvelle ère en astronomie avec une énorme amélioration des possibilités de résolution. Bon, vous savez que Galilée, en son temps, avait été le premier à utiliser une lunette pour regarder le ciel, qu'avec une lunette très modeste, moins puissante qu'une paire de jumelles qu'on achète chez le marchand du coin, il avait pu faire des découvertes qui ont beaucoup marqué son époque, les cratères de la Lune, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, etc. Ensuite, d'autres, comme Cassini, ont pu observer le mouvement des satellites de Jupiter avec des lunettes un peu plus puissantes et voir les éclipses, le mouvement des satellites et en déduire la vitesse de la lumière. Enfin bref, c'était le début d'une grande aventure qui se continue aujourd'hui. Mais depuis quelques siècles, la résolution des observations, c'est-à-dire la finesse des détails, a plafonné. Elle a plafonné. En principe, elle devrait s'améliorer quand on augmente la dimension des télescopes. En pratique, elle plafonne à partir d'une dizaine de centimètres à cause de l'atmosphère qui n'est pas assez homogène, qui a des bulles d'air chaud, une turbulence qui détruit les images à haute résolution qu'on essaierait de faire. Bon, c'est seulement maintenant, depuis quelques années, que l'on commence à dépasser cette limite, d'une part grâce au système d'optique adaptative, et puis au système d'interférométrie, et puis bien sûr au télescope dans l'espace. Et notamment les interféromètres, c'est-à-dire système de plusieurs télescopes qui travaillent ensemble comme si c'était un seul grand télescope, commencent tout juste en optique à reconstruire des images. On arrive à reconstruire par le calcul des vraies images d'objets qui pour l'instant ne sont pas encore très riches, mais ça va s'améliorer. Et ça commence déjà à donner beaucoup plus d'informations qu'on ne pouvait en avoir jusqu'ici. Donc, je vais parler aujourd'hui de ces résultats récents, sans pour l'instant entrer dans les détails de conception, de construction de ces instruments, dont je parlerai dans les séances suivantes, en particulier de ces nouveaux types d'instruments que nous appelons des hypertélescopes. J'avais parlé de ces images à basse, moyenne et haute résolution. Moyenne, c'est avec des instruments de 8-10 mètres, des télescopes classiques de 8-10 mètres dont on équipait d'optiques adaptatives qui corrigent la turbulence et qui commencent à donner des résultats extrêmement intéressants. Et puis, haute résolution, c'est avec des instruments beaucoup plus grands, par exemple 300 mètres, formés de plusieurs télescopes qui travaillent en interférométrie. Je réserve pour les fois suivantes la formation d'images directes à haute résolution, haut contenu d'information, qui pourraient être faites sur Terre et dans l'espace avec des hypertélescopes. Alors, les interféromètres, ça ressemble à ça. Ça, c'est le grand système européen là, qui est devenu... on peut dire que ça a propulsé l'Europe au premier rang pour l'astronomie à haute résolution, alors que depuis un siècle, c'était l'Amérique qui dominait l'astronomie, avec ses grands télescopes comme celui de Mont-Palomar. Et puis ça qui sera peut-être la génération suivante. La différence étant que là, on a un grand nombre de petites ouvertures, alors que là, on a un petit nombre de grandes ouvertures de 8 mètres. Alors, quelques nouvelles des résultats récents. Il y a un télescope infrarouge de 3 mètres qui a commencé à fonctionner dans l'espace, qui s'appelle Herschel. Ce n'est pas le premier, mais il a fait déjà toute une moisson de découvertes. Et dans l'infrarouge et le submillimétrique. Bon, alors malheureusement, on ne peut pas faire complètement l'obscurité parce qu'il y a une caméra qui filme. Ce n'est pas une caméra à comptage de photons, malheureusement, comme celle qu'utilisent les astronomes. Il faut de la lumière. Et alors, du coup, on voit mal les images. Alors, ce télescope infrarouge a pu faire des belles photos de galaxies très lointaines, comme celle-ci, où on voit des choses un petit peu différentes de ce que voit le télescope Hubble, parce que lui ne va pas dans l'infrarouge aussi lointain. Pour aller dans l'infrarouge lointain, il faut refroidir le miroir, refroidir la caméra. Ah oui, il y a un problème avec le projecteur, là. L'image sur mon écran, il n'y a pas la même allure. Bon, voyons si la suivante... Ah, c'est un peu mieux. Alors, ces images infrarouges montrent que ce qu'on croyait être un fond de ciel à peu près uniforme ressemble en fait à des points brillants qui semblent être des galaxies très lointaines, ce qui remet un petit peu en cause ce que l'on pensait être ce que l'on appelait le fond diffus cosmologique, que certains considéraient comme un résidu de cette explosion qui était censé être le Big Bang et qui serait à l'origine de tout. Et tout le monde n'était pas convaincu, mais ces derniers résultats jettent un doute supplémentaire sur le modèle du Big Bang. Il n'est pas clair qu'il existe derrière ces galaxies lointaines véritablement un fond uniforme qui serait le résidu de cette explosion. Bon, alors les télescopes font des progrès, mais les ordinateurs aussi, et les équipes qui les utilisent aussi, et font maintenant des modélisations superbes de la formation des amas de galaxies. Voilà, c'est plus beau ici. Et ces modèles montrent que les galaxies auraient tendance à s'aligner pour former des espèces de filaments, une espèce de paquet de spaghettis cuites mélangées. Et il se trouve que c'est un peu confirmé par l'observation. Voici une carte d'une tranche d'univers où chaque point est une galaxie, dont on connaît la distance par son effet Doppler, selon le modèle classique de l'expansion de l'univers. Notre galaxie est ici, et là encore, on voit cette distribution en filaments, des alignements de galaxies qui forment une espèce de filament. Alors, les grandes énigmes actuelles, c'est les questions de matière sombre et d'énergie sombre. Alors, la matière sombre, on en parle depuis longtemps, peut-être un siècle. Et lorsqu'on regarde la rotation des galaxies, qu'on voit par l'effet Doppler, on constate que cette rotation ne correspond pas à ce que devrait donner la masse de toutes les étoiles qu'on voit dans la galaxie. Tout se passe comme si une grande proportion des étoiles était invisible. Alors, ça pourrait être des étoiles éteintes, ça pourrait être des masses substellaires, des planètes, des choses comme ça qu'on ne voit pas, mais qui sont là tout de même. Enfin, le mystère n'est toujours pas éclairci. Bon, et ces dernières années, ce mystère s'est amplifié parce qu'on a constaté aussi que les effets de l'antigravitationnel des galaxies extérieures montrait aussi qu'il y avait de la masse cachée. Là, sur cette image, les parties bleues représentent la masse cachée, les parties rouges représentent de la matière qui émet en rayons X. Alors, on parle depuis quelques années aussi d'énergie sombre. On a pu observer des supernovae, c'est-à-dire des étoiles qui explosent de façon extrêmement violente. Et on peut les observer, elles sont tellement violentes, ces explosions, que quand il y en a dans une galaxie extérieure, une explosion, ça devient plus brillant que tout le reste de la galaxie. Autrement dit, comme il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, ça veut dire qu'en gros, l'étoile qui explose devient d'un coup, en quelques heures, 100 milliards de fois plus brillante. Bon, et en surveillant ces explosions dans les galaxies extérieures, et comme on sait qu'elles ont tout à peu près la même luminosité absolue, ces explosions, ça sert de calibration pour les distances. Donc on a maintenant une assez bonne carte des galaxies proches et lointaines avec leur distance et leur vitesse d'éloignement qu'on mesure par spectroscopie en regardant le décalage Doppler des raies spectrales. Le décalage des raies spectrales qu'on attribue selon toute probabilité à l'effet Doppler, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors, ce catalogue qui a pu être fait de façon relativement précise ces dernières années, montre que non seulement l'univers est en expansion, mais que cette expansion semble s'accélérer. Alors, la manière la plus simple d'expliquer ça, c'est de dire que, comme une bulle de gaz en expansion, il y a quelque chose qui pousse, on appelle ça l'énergie sombre, mais on ne sait pas l'expliquer. Enfin, il y a toutes sortes de théories pour l'expliquer, mais aucune n'est vérifiée. Bon, et puis, très récemment, il y a eu un pavé dans la mare avec un article intéressant fait par un mathématicien célèbre, Penrose, qui était l'inventeur des pavages de Penrose, avec des tuiles, des pavés non périodiques, et qui a regardé les données du satellite WMAP qui a fait une carte infrarouge, une photo infrarouge de l'univers lointain, avant Herschel, et il démontre que si on regarde de près cette photo, on voit dedans des cercles concentriques comme ça, à peine visibles, mais qui dépassent Enfin, il a fait le calcul de Signal sur bruit. En tant que mathématicien, il doit bien savoir faire ça. Et il conclut qu'il y a un facteur de confidence assez élevé. que ça peut difficilement être le hasard, qu'on voit comme ça par endroits des espèces de ronds, comme des ronds dans la mare. Et il échafaude une belle théorie, disant que avant le Big Bang, il y a eu d'autres Big Bang, que c'est cyclique, que ces ronds dans la mare, enfin dans l'univers, seraient la trace de très violentes explosions qui seraient produites avant le Big Bang, lorsque deux galaxies se percutent et que leur trou noir central, vous savez que la plupart des galaxies, probablement toutes, contiennent dans leur centre un trou noir géant avec des millions, peut-être même des milliards de fois la masse solaire. Et lorsque deux galaxies se percutent, ces trous noirs se percutent et ça peut produire un événement, selon lui, un événement extrêmement violent qui serait à l'origine de la formation de ces ronds et qui prouverait qu'il y a eu quelque chose avant le Big Bang et que ceci serait une espèce de trace fossile de ce qui s'est produit avant le Big Bang. Bon, alors évidemment, ça n'a pas encore été très, très discuté parce que c'est très très récent. Et l'article qui a été publié ici, en fait, n'a pas été, c'est pas un journal, il n'a pas été soumis à des lecteurs, des référis. Donc la discussion n'a pas encore commencé, mais étant donné la qualité de l'auteur, c'est quelque chose qui sera certainement pris au sérieux. Alors, les lentilles gravitationnelles sont des choses fascinantes. Bon, si on suppose que la lumière a une masse, que les grains de lumière qu'on appelle les photons ont une masse, eh bien, si vous avez une étoile ici qui envoie ces grains de lumière, s'ils passent tout près d'une étoile, qui a aussi de la masse, eh bien, ils sont attirés. Ils sont attirés. On peut représenter ça par une surface de potentiel de gravité qui aurait un creux autour de l'étoile, là, et il se passe la même chose que si vous faites rouler une bille sur une table de billard et qu'il y a un trou dans la table de billard, enfin qu'il y a une cuvette dans la table de billard, eh bien, là, si vous envoyez une bille d'ici et qu'elle roule, là, eh bien, au bord de la cuvette, elle va être un peu déviée, de sorte que si vous envoyez deux billes, elles peuvent se recroiser par ici. Bon, et c'est ce qui se passe apparemment pour la lumière. Bon. En fait, Einstein n'avait pas été le premier à envisager ce genre de choses. Et alors, l'observateur qui se trouve ici, s'il regarde l'étoile, eh bien, il va voir de la lumière ici, et il va en voir ici, et puis il va en voir tout autour aussi. Il va avoir une espèce d'anneau lumineux autour de l'étoile, ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Alors là encore, ce n'est pas Einstein qui était le premier à parler de ce genre d'anneau lumineux, mais enfin, on appelle ça couramment l'anneau d'Einstein. Alors, depuis quelques années, on est arrivé à photographier de beaux exemples d'anneaux d'Einstein. Bon, voici un par exemple. Là, vous avez une galaxie qui sert de lentille, de masse. Et autour, on voit une espèce d'anneau qui est la lumière provenant d'une galaxie beaucoup plus lointaine, en arrière-plan, dont la lumière est déviée. Et le même objet observé en radio avec l'interféromètre Merlin donne quelque chose qui ressemble un peu. Là, on retrouve le même arc qu'ici, le morceau d'anneau d'Einstein. Par contre, on ne voit pas la galaxie centrale. Alors, notre collègue de Liège, Jean Surdège, avait illustré le phénomène de ces mirages, on appelle ça des mirages gravitationnels. C'est un petit peu comme les mirages dans le désert, lesquels sont formés par une couche d'air chaud proche du sol qui réfléchit les rayons de lumière, de sorte que les malheureux voyageurs ont l'impression de voir un lac parce qu'il y a un reflet sur le sable. Alors récemment, oh là, il y a vraiment un problème avec ce projecteur. Récemment, cette belle photo a été prise qui montre un effet de lentille gravitationnelle où là on ne voit pas l'anneau entier, il est brisé en quatre parce que l'alignement est un petit peu de travers. Mais sur cette photo, on voit en plus la galaxie proche qui sert de lentille. C'est son noyau très massif qui doit servir de lentille. Et les rayons de lumière traversent la galaxie, la plupart sans être affectés, mais ceux qui passent très près du noyau proche sont courbés. Alors, ce genre de photo donne énormément d'informations intéressantes sur la masse qui sert de lentille, la galaxie dans le cas présent, la concentration de la matière au centre de cette galaxie, mais aussi éventuellement sur ce qui se trouve très loin derrière, ce qui est la source. Par exemple, si la source s'allume et s'éteint, eh bien, vous allez voir les quatre points qui vont, ou l'anneau d'Einstein qui vont s'allumer et s'éteindre, mais pas tout à fait en même temps. Vous pouvez avoir un décalage dans le temps. Par exemple, celui-là peut s'éteindre et puis celui-là peut s'éteindre un an après. C'est parce que les deux trajets de lumière qui ont fait les deux trajets différents ont suivi des chemins qui n'ont pas tout à fait la même longueur, d'où le décalage des impulsions à l'arrivée. Bon, ce qui a permis de confirmer, par exemple, de raffiner l'estimation de la constante de Hubble. Bon, alors effectivement, il y a parfois la source lointaine comme celle-ci qui est fluctuante s'il s'agit d'un quasar. Un quasar, c'est un noyau extrêmement brillant de galaxies qui est très petit et qui peut fluctuer en quelques semaines, s'allumer et s'éteindre. Alors c'est un phénomène très intéressant de surveiller ce qui se passe avec la lentille gravitationnelle. Bon, voilà d'autres cas d'anneau d'Einstein, un anneau presque complet. Et là, un autre. Et encore quelques-uns. Là, vous avez quelques arcs. Alors, c'est dommage, ce projecteur. Quelques arcs. Je suis désolé pour ceux qui sont au fond. Et je leur suggère d'apporter un télescope la prochaine fois qu'ils viennent. Vous avez un bel arc, etc. Encore un autre cas. Et là, vous avez le même objet qui est observé par le télescope spatial Hubble dans le visible. On ne voit pratiquement rien. Dans l'infrarouge, on voit un petit peu quelque chose. Et dans l'infrarouge lointain, par le télescope Spitzer. Encore un autre exemple de ces arcs, vu par le télescope Hubble. Et encore quelques images récentes montrant d'autres arcs. Alors, il semble que les galaxies très très lointaines et très nombreuses, des milliards, qu'on voit sur les images récentes, notamment du télescope Hubble, où vous savez, il y a eu ces pauses. Ils ont fait des images à longue pause, une pause qui durait une semaine, pour essayer de voir les galaxies les plus lointaines possibles, qui apparaissent très petites et très nombreuses. Alors, pour ces galaxies très lointaines, les probabilités d'occultation par d'autres galaxies plus proches qui produisent ces effets de lentille sont plus élevées. Et donc, il semble que ce qu'on voit de l'univers lointain est probablement très, très déformé, très affecté par ces effets de lentilles gravitationnelles. Un peu comme sur Terre, où nous avons cette turbulence de l'atmosphère qui déforme les images des étoiles, ces effets de lentilles gravitationnelles se comportent comme une espèce de seconde turbulence à beaucoup plus grande échelle qui perturbe la vision de ce qui est très lointain. Encore un cas de lentille gravitationnelle vu par télescope spatial Herschel, et au sol par le télescope Keck. Keck, ce sont deux télescopes de 10 mètres qui sont situés à Hawaï et qui travaillent aussi en interférométrie. Mais là, ça n'a pas été fait en interférométrie. Bon, il y a quelques années, j'avais parlé de cette possibilité que ces effets de l'antigravitationnel puissent focaliser la lumière et focaliser une image du ciel à l'entrée d'un télescope. Si vous avez une lentille gravitationnelle qui est pas trop loin, disons à moins de quelques années-lumière, vous pouvez espérer que la masse qui focalise produise par effet d'interférence. Ici, là où les rayons se croisent, venant de l'anneau d'Einstein. Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, non. À l'entrée du télescope, vous recevez des rayons venant de la partie droite et de la partie gauche et d'autres parties de l'anneau d'Einstein qui se croisent, qui font des interférences, de sorte qu'en principe, si votre source est ponctuelle, votre source lointaine est ponctuelle, vous pourriez avoir ici au milieu du télescope un pic d'interférence qui pourrait faire par exemple 10 cm de large entouré d'anneaux. Bon, ça c'est un calcul classique de diffraction. Et si vous avez une autre étoile à côté, vous aurez un autre pic identique mais décalé. De sorte que vous aurez à l'entrée du télescope une espèce de projection du ciel lointain. Et avec une résolution extraordinaire, puisque si cet anneau d'Einstein fait, par exemple, 1 million de kilomètres de diamètre, eh bien, ça se comporterait un peu comme un télescope de 1 million de kilomètres d'ouverture. Ah, c'est le connecteur qui s'était arraché. J'espère qu'il a pu s'éteindre. Bon, alors ça n'a pas encore pu être observé. Il faut des très grands télescopes pour ça. Peut-être que le projet de télescope européen de 42 mètres pourrait voir ce genre de choses. Et ce sont des événements qui seraient extrêmement fugitifs, parce que la Terre se déplace très vite ou par rapport à l'alignement de la lentille d'arrière-plan. Et donc, cette projection défile extrêmement vite. Et on peut espérer que le pic va passer en quelques millièmes de seconde en travers du télescope. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, et ce n'est pas prévisible non plus, c'est uniquement par chance qu'on peut le voir. Mais on peut, en principe, avec une caméra comportant un grand nombre de capteurs CCD, couvrir une zone assez large du ciel et travailler en parallèle sur un certain nombre de sources potentielles ou des lentilles potentielles. Bon, alors, au centre des galaxies, il semble se confirmer qu'au centre de la plupart des galaxies, il y ait un trou noir géant avec une masse correspondant à des millions et peut-être des milliards de fois celle du Soleil, et qu'il s'y passe des choses extraordinaires, notamment ce trou noir attire la matière environnante qui se met à spiraler autour et à tomber dessus, et qui, une fois qu'elle a franchi ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, on n'en entend plus parler, elle disparaît, il n'y a plus de lumière qui ressort. La seule chose qui ressort, en principe, ce serait la radiation de Hawking. Hawking a montré que les trous noirs devraient, à la longue, s'évaporer, mais pas en émettant, mais il n'en sort aucune lumière visible. Alors voilà une vue d'artiste de ce que pourrait être l'un de ces trous noirs massifs. Alors, ces galaxies semblent aussi émettre, ça c'est le plan d'une galaxie, en l'occurrence notre galaxie, la Voie lactée. Et il semble qu'il y ait une espèce de globe d'émission de rayons X et de rayons gamma de chaque côté. Alors j'en arrive au résultat récent de l'optique adaptative. Alors l'optique adaptative, vous savez, c'est un petit miroir rapidement déformable que l'on met près du foyer d'un grand télescope et que l'on déforme très vite pour corriger les défauts de l'onde lumineuse qui a traversé l'atmosphère. En traversant l'atmosphère, l'onde lumineuse qui était plane à l'arrivée dans l'atmosphère devient couverte de bosses causées par les bulles d'air chaud de l'atmosphère et ça détruit l'image. Mais en arrivant à corriger ces bosses par réflexion sur un miroir sur lequel on a créé des contre-bosses disposées de la même façon, on arrive à corriger ce défaut. Alors il faut que ce miroir se déforme très très vite, en quelques millisecondes, et il faut qu'il sache à l'avance comment il doit se déformer, et il le sait grâce à un capteur qu'on appelle un senseur d'onde qui mesure les déformations de l'onde pour faire déformer comme il faut le miroir. Bon, alors c'est très acrobatique, mais ça commence à marcher assez bien. Par exemple, ici, vous avez l'image d'une étoile avec un compagnon très faible qui a pu être formé par ce genre de système. Et ça a permis aussi de voir des exoplanètes d'étoiles et des disques circumstellaires. Bon, voilà une vue d'artiste de ce à quoi peut ressembler un disque circumstellaire. Certaines étoiles sont entourées d'un disque, un peu comme des anneaux de Saturne, et on pense que c'est là que se forment les planètes d'étoiles. Peut-être qu'un jour, peut-être que dans un passé lointain, notre Soleil était environné d'un tel disque, et qu'il s'est condensé pour former les planètes actuelles. Alors, ces étoiles, ces systèmes d'optique adaptative commencent à marcher, mais il faut que l'étoile qu'on observe soit assez brillante pour qu'on ait le temps, en quelques millièmes de seconde, de mesurer la forme de l'onde afin de pouvoir la corriger. S'il n'y a pas assez de lumière, on n'a pas assez de photons, on n'a pas assez de temps pour mesurer. Alors, le problème peut être contourné en créant, tout près de l'étoile qu'on observe, une étoile artificielle à coup de laser. Alors, on fixe sur le télescope un laser puissant qui éclaire le ciel le plus haut possible, pour faire un point brillant en visant l'étoile qu'on veut observer, de façon à activer le senseur d'onde qui va permettre de faire l'optique adaptative. Et à ce moment, on n'a plus besoin de la lumière de l'étoile pour activer le correcteur d'onde, et donc on peut regarder des objets très très faibles, par exemple des galaxies extérieures. Bon, alors là, le télescope Keck, qui est l'un des plus grands du monde, qui a un miroir mosaïque de 10 mètres, est depuis quelques années équipé d'un tel système qui marche très bien, qui a donné de très beaux résultats, et qui utilise la couche de sodium. Alors, vers 90 km d'altitude, il y a une couche contenant pas mal d'atomes de sodium qui sont, semble-t-il, produits par les météorites, les grains de poussière venus de l'espace qui se désintègrent à cet endroit-là et qui relâchent leur sodium. Vous savez que quand vous avez une cuisinière à gaz, si vous jetez un grain de sel dans la flamme, elle devient jaune, brillante. Brillante, ce sont les atomes de sodium qui ont une très forte section efficace de luminescence, de fluorescence, de résonance. Il en suffit très peu pour faire beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on utilise des lampes à sodium dans les rues de Paris quand vous avez des lampes rouges. Les lampadaires, oui, les lampadaires jaunes. Jaune, c'est les lampadaires à sodium. Bon, alors, donc cette couche de sodium à 90 km d'altitude, si vous envoyez un rayon de laser qui a exactement la même longueur d'onde que celle du sodium jaune, eh bien, ça crée là-haut une tache jaune relativement brillante qu'on peut utiliser comme étoile artificielle. Alors, l'idéal serait qu'elle soit encore plus loin que 90 km, mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Et ça permet, depuis quelques années, de faire des images qui sont, par exemple, 100 fois plus nettes que ce que donnaient les images classiques, les télescopes classiques, parce que, en gros, l'ouverture de 10 mètres est 100 fois plus grande que les ouvertures de 10 cm, qui étaient les plus grandes qu'on pouvait utiliser, enfin, au point de vue de résolution des images. Bon, alors, alors voilà deux cas de... de telles observations. Là, vous avez une lentille gravitationnelle. La lentille elle-même semble être un quasar, c'est-à-dire l'un de ces noyaux de galaxies extrêmement brillants. Et on voit sur le côté deux petites images d'une source beaucoup plus lointaine, qu'on ne voit pas, mais là, c'est la faute du projecteur. Ça va peut-être un peu mieux ici. Ici. Il y a le connecteur qui se défait à chaque fois. Et puis, ici, vous avez une image de deux étoiles très serrées, qui sont toutes des naines brunes, c'est-à-dire des étoiles de faible masse, basse température, qu'on n'avait jamais observées jusqu'ici en système binaire. Et là, grâce à cette optique adaptative qui marche même sur des objets très faibles, on a pu la résoudre. Voici encore un autre exemple sur une source peu lumineuse. Ouh là là. Alors, c'est au centre de notre galaxie. Au centre de notre galaxie, il y a apparemment l'un de ces trous noirs géants très mystérieux qu'on voit difficilement parce qu'il y a beaucoup de poussière entre lui et nous et la lumière visible ne passe pas. La lumière infrarouge passe. Et ça, c'est une série de photos qui ont été faites dans l'infrarouge avec cette optique adaptative très sensible et où on voit à l'endroit présumé du centre galactique on voit une tache rouge, ou infrarouge plutôt, qui est ici. Et en une heure, vous avez quatre images qui ont été faites tous les quarts d'heure. Et on s'aperçoit que sur ces deux-là du centre, cette tache rouge est nettement plus intense que les deux autres. Bon, là, on ne voit rien du tout. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui s'allume et qui s'éteint au centre de cette galaxie. Alors, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais enfin, bref, c'est la première fois qu'on peut voir ce genre de choses. Alors, l'Europe aussi se met sérieusement à ces systèmes d'étoiles guides laser. Vous savez que l'Europe a construit 4 télescopes de 8 mètres au Chili, qui donnent de très beaux résultats, notamment en interférométrie, où ils sont vraiment les premiers. Et l'un de ces télescopes est maintenant équipé d'un laser qui émet la longueur d'onde du sodium pour faire une étoile guide laser. Et c'est un nouveau système de laser à fibre optique. La lumière est produite dans une fibre optique et qui est beaucoup plus compact que celui utilisé jusque-là, notamment à Hawaï. Le système est gros comme ça, et donc bientôt il pourrait y en avoir sur beaucoup de télescopes. Enfin, c'est beaucoup plus facile à utiliser que ça ne l'était. C'était une usine à gaz et ça devient quelque chose de relativement utilisable. Alors voilà encore d'autres images récentes de noyaux actifs de galaxies. Alors tous les noyaux de galaxies semblent contenir un trou noir géant, mais tous ne sont pas actifs. Certains sont beaucoup plus actifs que d'autres, c'est-à-dire extrêmement lumineux, il s'y passe des choses extrêmement violentes, la matière de la galaxie est attirée et tombe sur ce trou noir géant en dégageant son énergie. Alors cette galaxie en particulier, alors on voit rien du tout, montre une lumière verte tout à fait bizarre qui semble être un exemple. Un exemple à peu près unique et pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'explications. Cette espèce de nuage vert proche de la galaxie. Bon, enfin, c'est un mystère à éclaircir. Bon, ce serait peut-être un nuage qui réfléchirait de la lumière du. Un énorme nuage qui réfléchirait de la lumière venant du centre de la galaxie. Alors, vous savez aussi que si on veut essayer d'observer les planètes d'étoiles, on est gêné par le fait que la planète est beaucoup moins lumineuse que l'étoile et qu'on est complètement aveuglé par la lumière de l'étoile. De même que quand on roule en voiture le soir vers le soleil couchant, on est aveuglé par le soleil couchant, on est obligé de mettre la main devant les yeux comme ça ou de baisser la visière. Eh bien, les télescopes, de plus en plus, sont équipés d'un espèce de système de visière pour cacher l'étoile quand il va essayer de voir la planète. Et ce système, on appelle ça un coronographe. Bon, c'est des engins très, très sophistiqués, il en existe différentes sortes. Le premier avait été inventé dans les années 1930 par Bernard Liot, qui à l'époque essayait de voir la couronne du Soleil, laquelle est 1 million de fois moins brillante que le Soleil, et qu'on n'arrive pas à voir normalement, sauf quand il y a une éclipse. Bon, et grâce à cet instrument, il avait pu voir et filmer la couronne du Soleil sans attendre les éclipses, qui sont rares et qui durent peu longtemps. Et alors maintenant, on fait des instruments de ce genre pour voir ce qu'il y a autour des étoiles et notamment les planètes. Bon, mais si on fait ça sur Terre, on est très gêné par la turbulence de l'atmosphère et donc on rajoute une optique adaptative. Alors voici quelques images récentes obtenues au Mont Palomar avec un nouveau type de coronographe et une optique adaptative, et cette image montre 3 planètes autour d'une étoile. Alors l'étoile est là, elle est cachée par le coronographe pour qu'on voit mieux les planètes que voici. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que ce système est assez sensible. Bon, les planètes qu'on voit là sont à peu près 10-5, 10-6, c'est-à-dire à peu près un millionième de fois plus faible que l'étoile. Et cela, bien que le télescope utilisé était en fait très petit, parce qu'en fait, ils ont utilisé le télescope de 5 mètres du Mont Palomar, mais ils l'ont diaphragmé à 1,50 m, ce qui veut dire que de nombreux télescopes existants de ce genre de diamètre pourraient voir ce genre de choses. Quelques autres exemples. Attendez, je reviens là. Bon, voilà encore une image à travers un coronographe d'une étoile qui est masquée par le coronographe, mais on voit 2 planètes proches ici. Et là, on voit 3 planètes. Alors, ces planètes qu'on commence à voir, qu'on commence à pouvoir photographier, sont des planètes genre Jupiter, c'est-à-dire des planètes très grosses, très lumineuses, relativement faciles à voir près de l'étoile. Bon, on n'en est pas encore à pouvoir voir des planètes petites et faiblardes comme la Terre, qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Une Terre est à peu près 10 milliards de fois moins lumineuse que son étoile, le Soleil. Si vous êtes loin dans l'espace et que vous prenez une photo du système solaire, vous verrez le Soleil très brillant, très surexposé, et la Terre, vous verrez Jupiter à côté, et la Terre, vous la verrez beaucoup plus difficilement parce qu'elle sera 10 milliards de fois moins lumineuse que le Soleil. Donc, c'est très difficile à voir. Donc il faut un très bon coronographe, un très bon télescope, ce sera pas facile. Donc on n'a pas encore vu, on n'a pas pu photographier de Terre. On a pu détecter des Terres, mais indirectement, pas sous forme de photo. On a pu les détecter par d'autres méthodes dont nous entendrons parler prochainement. Alors, il existe un site ici sur l'interférométrie à longue base qui affiche tous les articles publiés dans ce domaine. Alors, par exemple, pour cette année, il y a eu 3 articles de revue, il y a eu 38 articles de résultats et 6 articles de théorie et prédiction et 11 décrivant les instruments. Et si on compare avec les années précédentes, on voit qu'il y a un emballement en ce moment. Il commence à y avoir beaucoup plus de résultats de ce genre de choses. C'est vraiment un domaine où la progression est très, très rapide. Alors, c'est de ça que je vais parler plus en détail la semaine prochaine. Les résultats récents et les projets en interférométrie. Interférométrie qui, comme vous le savez, est basée à son origine sur le travail de Jung dans les années 1810, qui avait fait passer de la lumière à travers 2 petits trous ou 2 fentes et observé des interférences de lumière. Bon, et je parlerai aussi de notre projet dans les Alpes du Sud, où nous voulons disposer un grand nombre de miroirs sur la courbure d'une vallée à 2100 mètres d'altitude, avec une caméra suspendue au-dessus qui va recueillir la lumière focalisée d'une étoile, dans l'idée de faire l'équivalent d'un miroir géant dilué. Donc nous avons commencé à installer le système pour faire des essais. Si vous passez par là, vous êtes bienvenu pour donner un coup de main. Voilà. Et la conclusion pour aujourd'hui, c'est que il y a de gros progrès actuellement pour les télescopes adaptatifs. Beaucoup de résultats en physique stellaire et même en extragalactique. Un petit début pour l'imagerie optique à haute résolution, dont je parlerai davantage la semaine prochaine, avec de belles perspectives d'évolution. Et la semaine prochaine, je parlerai donc des premières images obtenues par les interféromètres et de l'évolution vers les hypertélescopes. Voilà un prototype d'un petit miroir grand comme ça. Et il y en aura peut-être une centaine ou plusieurs centaines posées par terre pour reconstituer une sphère avec une précision de forme de quelques microns qui focalisera les lumières d'étoiles vers une caméra suspendue au-dessus. Voilà, je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions. Je vous prie d'excuser le projecteur.